Voilà, on approche de la fin et c'est bon de conclure avec Paul, qui est au fond le premier commentateur. N'oublions pas, même si dans toutes nos Bibles et dans tous nos Nouveaux Testaments, Paul est après les quatre évangiles et les actes, n'oublions pas que Paul est mort avant la rédaction du premier des quatre évangiles. La rédaction de Marc peut être située aux alentours de 65, en tout cas avant 70, et la mort de Paul autour de 62-63. Donc, quand Paul nous parle de la Bible, il ne connaît évidemment pas le Nouveau Testament, et il ne connaît pas l'Ancien Testament tel que nous le connaissons. Ça n'est pas encore figé. C'est à, on appelle ça le concile, mais mettons l'assemblée des responsables de communautés juives à Jamnia, à la fin du siècle, que va se structurer progressivement la liste des livres que nous appelons la Bible ou la Torah ou l'Ancien Testament. Vous savez que, assez justement, les Juifs religieux n'aiment pas que nous parlions d'Ancien Testament. Pourquoi ? Parce que habituellement, quand on parle d'Ancien, ça veut dire que directement il y a un nouveau et que l'Ancien est caduque. Et je crois que ce n'est pas ce que nous voulons dire, mais. Et la faute en est à Paul qui, dans la deuxième épître aux Corinthiens, parle de Nouveau Testament. Donc, on est en bonne compagnie. Mais. Alors, je lis rapidement parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais c'est intéressant de voir comment ce qu'on lit l'interprétation que Paul fait de tout ce que nous avons dit sur l'Exode. Et puis, ça me permettra de. Et maintenant, ça ne vous étonne plus de ne pas être tout à fait d'accord avec la traduction de la Tobe. Et pourtant, vous avez employé la traduction de la Tobe, la nouvelle version, 2010. Mais je vais tout de suite vous en donner un exemple. Premier verset de l'Épître aux Corinthiens. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères. C'est gentil d'avoir ajouté « sort ». Ce n'est pas tout à fait le style de Paul, mais ça nous convient tout à fait. « Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères et sœurs, nos pères étaient tous sous la nuée et tous sont passés à travers la mer. » Pourquoi la mer rouge ? Pourquoi est-ce que la Tobe sait des choses que Paul ne veut pas nous dire ou ne veut pas savoir ? Et moi, je crois qu'il a raison. Parce que déjà aux Corinthiens, la mer rouge, ça signifie rien. Par contre, traverser la mer, ils savent ce que ça veut dire. Et en particulier, Corinthe qui vit économiquement du fait de la traversée de ce que nous appelons aujourd'hui l'isthme de Corinthe. Et donc, il veut leur permettre de faire des comparaisons immédiates géographiquement avec ceux qui connaissent. Donc, je veux que vous vous rappeliez, frères et sœurs, ce qui est arrivé à nos ancêtres du temps de Moïse. Ils ont tous été sous la protection de la nuée, ils sont tous passés à travers la mer. Dans la nuée et dans la mer, ils ont tous été baptisés en communion avec Moïse. Ils ont tous. Attention, baptiser, ce n'est pas le sacrement du baptême, hein. C'est la tradition juive qui remonte le plus proche de Paul, ce serait avec Jean le Baptiste. Puisqu'on parlait de Yom Kippour tout à l'heure, c'était déjà une tradition chez les Juifs de passer à travers l'eau pour être purifié de tous les péchés qu'on avait accumulés pendant l'année. Ils sont tous baptisés en communion avec Moïse. Ils ont tous mangé de la même nourriture. Merci Paul, il a compris Tout à l'heure, je vous ai donné trois références qui se sont finies avec sagesse pour savoir comment traduire le man hu. Paul n'est pas dupe, il s'agit d'une nourriture qui nous nourrit spirituellement. Le c'est quoi ça? C'est cette nourriture spirituelle. Ils ont tous bu de la même boisson spirituelle. Donc vous voyez, il n'est pas dupe, il interprète immédiatement en disant « Bon, vous avez entendu l'histoire du bâton qui tape le rocher, etc. » Il sait tout ça. Et je pense que dans le temps où il a séjourné à Corinthe, c'est quand même un des séjours parmi les voyages de Paul qui est le plus long. Il est à Corinthe, il les connaît donc bien, il a dû leur raconter tout plein de choses. Et à la synagogue, ils ont certainement, pendant les 2 ans et quelques, ils ont fêté la Pâque et par conséquent, ils ont lu tous ces textes. Ce qui lui permet de dire, ils buvaient en effet aux rochers spirituels qui les accompagnaient. J'espère que vous avez compris l'image. Vous voyez le rocher qui se déplace? Donc c'est bel et bien, qui est ce rocher? Et c'est toute l'argumentation de ce chapitre 10, c'est de nous montrer qui est ce rocher. Mais ce rocher, c'est-à-dire quelque chose de solide, quelque chose sur lequel je peux avoir confiance. Il buvait en effet au rocher spirituel qui les accompagnait, et ce rocher, c'était Christ. Alors l'image, elle devient tout d'un coup très belle, puisque c'est sur ce rocher que il y a eu ensuite la rencontre, le face-à-face. Et c'est ce rocher qui les accompagnait, et c'est ce rocher dont j'ai à parler, dit Paul. Pourtant, la plupart d'entre eux, c'est-à-dire la plupart de vos pères, ne furent pas agréables à Dieu, et c'est pourquoi ils tombèrent morts dans le désert. Si vous cherchez une raison pour laquelle Paul n'a pas très bonne presse auprès des Juifs religieux, vous l'avez déjà là. Ils n'ont rien compris, vos ancêtres, et ils ne furent pas agréables à Dieu. Ces événements, alors je ne recommence pas, hein, c'est tout ce qu'on vient de dire, l'Exode, ces événements nous servent de modèle. Voilà la vraie herméneutique ou exégèse, ou commentaire. Pourquoi est-ce qu'on nous raconte l'histoire de l'Exode? C'est parce que ça nous sert de modèle, dit Paul. Pour que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme eux en ont eu. Ne vous mettez pas à adorer les idoles, comme certains d'entre eux l'ont fait. On voit qu'il est prudent, hein? Mais il faut se dire qu'à Corinthe, il y a aussi des Juifs dans la communauté, et pas que des futurs chrétiens venus de différentes autres religions. Donc ce ne sera jamais tous, mais certains d'entre eux. Ainsi que le déclare l'Écriture, les gens s'assirent pour manger et boire, puis se levèrent pour se divertir. Et donc il tire la conséquence. Ne nous livrons pas non plus à la débauche, comme certains d'entre eux l'ont fait, et 23 000 personnes tombèrent mortes en un seul jour. Ça, il l'a entendu à la TV le soir d'avant. Et nous ne savons pas de quoi il s'agit. Mais malheureusement, c'est des chiffres qui, depuis, ont été dépassés depuis longtemps. Ou on pourrait dire qu'on a entendu le dernier chiffre de la catastrophe du Maroc, ou le dernier chiffre de la catastrophe de la Libye, ou, comme il sera dit dans l'Évangile, il y a même eu une fois une tour qui est tombée, et elle a écrasé, etc. Donc vous voyez, le lien avec la TV... C'est moi qui plaisante, vous avez compris. Avec l'information de l'époque, il faudrait qu'on ait le Korinther Tagblatt ou le courrier corinthien de l'époque pour savoir. Mais c'est quand même catastrophique, hein, c'est 23 000 personnes. Vous mettez tout de suite, comparé au pourcentage de population, vous mettez carrément un zéro derrière. Donc, on a une catastrophe dont il fait mention avec plus de 200 000 personnes. Ne mettons pas le Christ à l'épreuve, comme certains d'entre eux l'ont fait. Et ils moururent de la morsure des serpents. De tout ça, nous avons parlé, l'eau, le pain, la viande, les serpents. Enfin, c'est gentil. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas gardé le mot? Il était plus gentil. Ne murmurez pas, maintenant que vous comprenez ce que ça veut dire, comme certains d'entre eux l'ont fait, et ils furent exterminés par l'ange de la mort. Ces malheurs, tout cela, on pourrait dire, leur arrivèrent pour servir d'exemple à d'autres. Il ne minimise pas ce qui s'est passé. Il dit pourquoi est-ce qu'on parle de ces catastrophes? Pour revenir en arrière? Non, ce serait complètement ne pas comprendre l'intention et de Paul et des rédacteurs de l'Exode. Non, ça nous sert d'avertissement. Si vous savez où vous mettez les pieds, alors vous êtes encore plus responsable de les mettre, mais peut-être que ça va vous servir d'exemple pour ne pas mettre les pieds où il ne faut pas. Et toutes ces choses ont été mises par écrit. Donc on peut supposer que Paul a lu l'ancêtre du livre de l'Exode, ou en tout cas, ce que nous connaissons comme livre de l'Exode. Et c'est ce qui nous permettrait de comprendre qu'il est aussi précis dans ses citations. Nous retrouvons vraiment, et c'était un choix tout à fait opportun de finir par Paul, tout cela a été mis par écrit pour nous avertir, car nous vivons en un temps proche de la fin. Déjà dans l'épître aux Thessaloniciens, qui est la plus ancienne des épîtres de Paul, il nous parle de cette menace de la fin du monde. Vous savez qu'il y a toute une littérature là autour, je n'entrerai pas là sur ce sujet cet après-midi. Il est évident, dans un premier temps, que Paul s'attendait à ce que la fin du monde soit de son vivant. Que ça arrive, on ne sait pas comment. Est-ce après la trouille qu'ils ont eue, que 23 000 ont été massacrés? Est-ce que l'irruption d'un volcan sur l'île de Santorin a eu lieu à cette époque? Je ne sais pas. Et il faudra que Timothée, que Paul va envoyer à Thessalonique pour voir si la première épître qu'il leur a envoyée a bel et bien été reçu, il faudra que Timothée revienne et lui dise « Écoute, ils ont tous la trouille, hein. D'une part parce qu'il y en a encore qui vivent à qui tu as dit ça, d'autre part il y en a qui sont morts, et alors ils sont où ?» Donc on voit que la théologie de Paul a bougé. Je vous renvoie, si vous ne l'avez pas lu, à l'excellent bouquin de Daniel Marguera, avec lequel, sur un certain nombre de points, je ne suis pas d'accord, mais sur ce point-là, il nous explique bien que Paul n'est pas monolithique, nous non plus, et que Paul, il a aussi progressivement avancé dans sa réflexion sur le sens de notre vie, mettez vie avec un V majuscule. Par conséquent, et c'est la fin de notre journée, et ça nous va bien. Par conséquent, que celui qui pense être debout fasse attention, je vais parler vaudois, de ne pas s'encoubler. Ça, c'est délicieux. Dites ça en France et tout le monde va vous demander ça veut dire quoi? C'est tellement plus joli, s'encoubler. Enfin, Donc que celui qui pense tenir debout veille à ne pas tomber. Les épreuves que vous avez connues ont toutes été celles qui se présentent normalement aux êtres humains. Ne vous affolez pas, ça arrive à tout le monde. La seule chose, c'est veiller à ne pas tomber. Car Dieu est fidèle à ses promesses. Il ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Je n'entrerai pas en matière sur la traduction, quelle que soit celle que vous choisissez, du Notre Père. Ne nous laisse pas entrer en tentation, ne nous soumets pas à la tentation, c'est égal. Mais surtout que vous soyez clair que ce n'est pas Dieu qui nous tente. Mais nous sommes tentés et nous avons besoin de celui qui nous remet debout, qui nous ressuscite. Au moment où surviendra l'épreuve, il vous donnera la force de la supporter et aussi le moyen de sortir, c'est le même mot qu'Exode. Alors, on sort du désert. Oui, mais quel est le désert? Peut-être que le désert n'est pas du tout fait de roches et de sable. Peut-être que notre désert est fait de sens et de non-sens. Mais il donnera la force de supporter et de s'en sortir. C'est extraordinaire ces petites phrases. Souvent elles sont noyées dans un doute. Et combien de fois j'ai entendu que... Ah, ben, heureusement qu'il y a l'évangile, hein, parce qu'après il arrive Paul et puis c'est tellement compliqué, on n'y comprend rien. Ben, si vous avez une phrase avec laquelle ça vaut la peine que vous terminiez cette journée et chacune de vos journées, c'est de vous dire qu'il nous donnera la force de supporter ce que nous avons vécu dans la journée et le moyen de nous en sortir si vous avez l'impression que ça vous enferme. Que la lecture de la parole de Dieu nous ouvre toujours. Si elle nous ferme, c'est qu'il y a quelque chose de diabolique. Et j'aime, quand je parle du diabolos, vous donner l'image du jeu de quilles. Diabolo, c'est la boule qui touche les quilles, qui partent dans tous les sens. Dia. Et la boule, c'est le même mot que le mot grec, ballo. Et nous vivons peut-être une époque où il y a beaucoup de diabolique, c'est-à-dire qui nous perturbe, qui nous éclate, qui nous fait partir dans tous les sens. Il est donc bon de se savoir avec celui qui est avec et d'être sûr qu'il nous permettra de supporter et de s'en sortir. Merci pour votre accueil. Bonne année à reprendre tous ces textes de l'Exode et à en découvrir plein de choses. Et merci de ce que nous avons partagé.